Bonjour chers amis, Dieu soit béni, que Jésus soit béni. Nous avons un cœur, une âme, un esprit pour le louer et ce soir nous le faisons encore ensemble. Dieu soit béni, que Jésus soit béni, que le trône de gloire de Dieu soit glorifié à travers nos vies. Amen. Nous prendrons bien sûr des textes dans la Bible. Alors, quelques informations pour ceux qui en voudraient, qui écoutent maintenant ou qui écouteront plus tard. Le jeudi 12, ou s'il n'y a pas lieu de le faire, nous allons regarder le programme ce soir ensemble, ma femme et moi, avec nos filles. Le jeudi 12 mai, nous partons vers Champigny-sur-Marne. Où ça sera le 13, mais probablement le 12. Ensuite, nous quitterons Champigny le 20 au matin, vendredi 20 au matin, et nous irons à Messeland, tout près de Blois, chez des amis qui ont une assemblée, la famille Scott. Une assemblée, semble-t-il, une assemblée de la même importance que la nôtre. Voilà. Et donc, c'est un frère que j'ai connu à Chalon-sur-Saône lors d'une retraite de 3-4 jours avec des scientifiques chrétiens sur les codes génétiques, les gènes humains, sur la création, etc., sur le créationnisme. Et on est resté amis. Bien qu'on ne se soit vu que là, on est resté amis, donc on va se voir bientôt. Nous serons rentrés, bien sûr, le 24, ou le 23, le 24. Et donc, le 26 viendra une famille des Vosges, pour 2-3 jours. Le jeudi 26, vendredi 27, samedi 28. Et probablement une amie de Champigny aussi, qui viendra à partir du 27. Jusqu'au 29. Voilà. Ensuite, il y a un programme qui est un peu varié. Nous voudrions aller, mais nous n'avons pas encore pris vraiment de contact sérieux. Nous voudrions aller à l'église d'Angers au mois de juin, à partir du 10 ou du 11 jusqu'au 21. Si le Seigneur le veut, si les frères et les sœurs le veulent. Et puis ensuite, nous aimerions aller, évidemment, à la Rhôde, voir les frères et les sœurs, rencontrer tous ceux qui sont là, ça fait toujours du bien, et d'entendre d'autres qui prêchent la parole de Dieu, qui apportent la parole. Et donc, on partirait le mercredi 29 juin, vers la Rhôde, ensuite vers Ussel, vers Saint-Menou. Mais tout cela est un peu compliqué. Il faut aussi passer à Limoges. Donc, du mercredi 29 juin jusqu'au 15 juillet, nous serions partis en essayant d'aller à toutes ces places, si Dieu le permet. Par la suite, le 16 et le 17 juillet, il y a une retraite spirituelle des membres de notre assemblée et le jeûne avec, le 16 et le 17 juillet. Ensuite, il faut compter que le temps va passer, il y aura évidemment du monde qui va passer chez nous, il faudra être là, présent, c'est très lourd en général. Nous aurons le camp des enfants du 1er août au 5 août. C'est un camp où les enfants de la région logent chez leurs parents. Si d'autres enfants viennent d'autre part avec leurs parents, bien alors ils logent sur place et après journée, ils sont à la garde de leurs parents. Bon, ensuite, au mois d'août, vers le 9 août, nous partirions en direction de Firminy, de Grenoble, de Firminy, de Toulouse, peut-être passer à Tornac, on ne sait rien. Et on verra bien. Peut-être Limoges. Voilà. C'est évident que tout cela est peut-être un peu lourd, à 74 ans. Mais bon, ma femme a besoin de sortir de la maison. Moi-même, j'ai à cœur d'aider les frères et les sœurs qui, depuis tant d'années, d'aider, de les consoler, de les exhorter, de les écouter, de nous rapprocher dans l'amour et l'amitié, puisqu'il y a tellement d'années que tout, beaucoup de frères nous aident, ici à Gomerie. Alors, je passe à une autre partie de mon exposé. À Gomerie, nous ne sommes pas nombreux au culte. Pourtant, il y a plein de personnes qui nous ont beaucoup aidés, et tout cela a coûté beaucoup d'argent. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi, peut-être, mais je vous le dis, j'en suis très reconnaissant. De 1993, à la sortie de l'Institut, jusqu'à l'an 2000, j'ai commencé à travailler pour le Seigneur, sans aucune aide financière. C'est Marie-Hélène qui travaillait. C'est Marie-Hélène qui assumait le boulot en ayant 6 enfants et encore il y avait des réfugiés chez nous. Elle était admirable. C'est une femme consacrée et volontaire, généreuse. Et au mois de mai 2000, l'an 2000, elle était épuisée, elle en avait marre, comme on dit, elle ne tenait plus debout. Je lui ai dit, je vais passer un mois dans la prière et le jeûne, et pas continuellement dans le jeûne, mais en pratiquant quand même. Je te dirai quoi à la fin du mois de juin? Et à la fin du mois de juin, je dis, le Seigneur va nous aider, tu dois arrêter de travailler, et ne demande pas le chômage, ne demande pas d'aide sociale, ni moi. Mais effectivement, au mois de juillet de l'an 2000, l'aide de chrétiens, à commencer par l'église d'Argenteuil, l'église de Champigny, puis d'autres, l'aide de chrétiens de France nous est arrivée via AMEBI, l'association missionnaire des églises baptistes indépendantes, dont le siège est à Toulon. Et l'aide a toujours continué depuis. Nous avons eu suffisamment pour vivre à partir du mois de juillet de l'an 2000. Dieu avait répondu à la prière et à la foi. La consécration de Marie-Hélène a été un grand exemple. Et bien sûr, moi qui travaille pour le Seigneur gratuitement, sans aucun retour, il n'y avait pas d'offrande, je ne recevais pas d'offrande des chrétiens, etc. Il y a juste une chrétienne qui, toutes les semaines, nous offrait 50 euros. 50 euros chaque semaine. Eh bien, je vais vous dire qu'ils étaient bien les bienvenus. Ils étaient les bienvenus parce que on était avec 6 enfants et des réfugiés à la maison, c'était évident. Nous faisions un grand jardin, un champ, etc. Et puis, Marie-Hélène avait son revenu, qui n'était pas très élevé, mais qui était suffisant. On s'en sortait grâce au jardin. Bon, maintenant, ce qui se passe, c'est que, durant cette période, les 7 années, 1993 à l'an 2000, un frère m'a proposé un chantier en noir. C'est arrivé 2 fois. « Oh, j'ai du boulot, si tu veux, tu peux aller maçonner, tu peux aller plâtrer, etc. Voilà, c'est à tel endroit, etc. » Mais j'ai constaté qu'après quelques jours, la police m'attendait. J'étais arrivé en retard, la police était là, et moi j'ai fait demi-tour et j'ai dit « c'est fini, à jamais ». Ça m'est arrivé 2 fois et je me suis dit, c'est le Seigneur qui, sans doute, a poussé quelqu'un à me dénoncer et je n'ai pas à faire du travail en noir pour m'en sortir. C'est que le Seigneur a un autre plan. Ça a été très indicatif pour moi. Mais ce sont des moments très redoutables. Parce que magouiller, oui, faire du travail en noir, ben oui, pour un peu s'en sortir. Évidemment, on se trouve tous les excuses, tous les prétextes, mais devant Dieu, il ne faut point frauder. C'est comme ça que le chemin était très difficile. Ensuite, par la suite, il y a eu beaucoup de personnes à la maison, beaucoup de SDF, Et donc, ceux-là ont été logés dans le village, dans la maison d'accueil que nous avions construit, Benoît, notre fils aîné et moi. Puis ensuite, nous avons eu du centre des réfugiés à Virton, beaucoup de gens qui avaient été exclus, qui avaient été jetés sur le trottoir par le directeur, par l'administration, beaucoup de gens sans papier qui sont venus chez nous. Et là, nous avons vu la main de Dieu. Énormément de chrétiens français ont envoyé de l'argent. 50, 100 euros, 500 euros, 300 euros, 1000 euros. Et finalement, quand je faisais les comptes tous les ans, chaque année, eh bien, il y avait un budget de 25 000 euros, rien que pour l'accueil, en dehors de la famille, du soutien à la famille et à mon ministère. Et ça arrivait jusqu'à 43 000 euros certaines années. Nous avions parfois jusqu'à 15, 25, 30, 35 réfugiés. Tous ces gens, selon Matthieu 25, j'étais nu, j'étais affamé, j'étais prisonnier, etc. Dieu a permis, Dieu a vu, Dieu a permis que nous puissions le faire. Et puis un nouveau maire est arrivé, il nous a interdit de continuer, virez-nous tout cela, liquidez-moi tout ça. Donc nous avons, difficilement, mais j'ai obéi, difficilement, parce que j'ai été menacé après d'amende de 14 000 euros par personne, par un policier qui n'a pas voulu dire son nom. C'est très gentil, c'est très brave, n'est-ce pas? Et qui était sans doute envoyé par ce maire, mais ce qu'il y a, c'est clairement, c'était salutaire. Nous étions fatigués, épuisés, et automatiquement, les dons se sont arrêtés pour l'accueil des réfugiés. C'est comme si tout était synchronisé par Dieu. Et lorsque je me suis fait passer un savon à la maison communale, en disant qu'il ne fallait plus accueillir personne, je regardais la personne, les deux personnes qui me parlaient, et je disais, Seigneur, c'est à toi qu'ils en ont, c'est pas à moi. Donc je vais être patient, je vais attendre que tu ouvres de nouveau les portes. Et les portes se sont ouvertes cette année-ci, il y a 3 mois, avec les Ukrainiennes et les enfants ukrainiens. Donc il y a 10 personnes ici, et dans la journée même, il y en a qui viennent jusqu'à 15 ou 20, passer toute la matinée chez nous, en plus des 10 que nous avons. Alors, c'est une bénédiction. La bénédiction est revenue. Ça se passe autrement parce que beaucoup d'incroyants, de croyants, donnent de l'argent à ces personnes pour aller faire des courses. Et puis, il y a des associations comme la Saint-Vincent-de-Paul, une association catholique, mais vraiment très bien organisée et très désintéressée. Des gens très braves, très honnêtes. Et il y a aussi une aide de la commune qui va arriver. Donc, nous n'avons pas les mêmes charges qu'auparavant. Il y a des charges, c'est sûr. L'eau, l'électricité, toutes ces choses-là, les imprévus, la robinetterie, le chauffage, et tout ça, c'est sûr que ça me joue des tours dans la gestion de la maison. Oui, pour le moment, parfois j'ai des soucis, des factures à payer, des soucis avec ça. C'est très pénible pour moi parce que j'aime bien d'honorer les factures et là, je suis en retard avec certaines factures. Ça n'est pas marrant. Mais je n'ai pas le choix. Le Seigneur, demande quelque chose, il faut le faire. L'épreuve est là et la grandeur de Dieu se manifestera toujours. Bon, maintenant, ce qu'il y a, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, je vous ai parlé des voyages. Pourquoi? Pour habituer notre assemblée à se passer de Marie-Hélène et de moi. Et effectivement, nous l'avons déjà fait depuis 2, 3 ans. Et il y a plusieurs hommes qui sont dignes de confiance, qui sont paisibles, qui s'entendent bien, qui n'ont pas d'excès et qui dont le cœur est propre et les propos sont propres, leurs relations sont propres. Et donc, en plus de nos filles, etc., d'autres personnes, l'une ou l'autre femme en plus, il y a une bonne équipe pour continuer. La conviction est ceci, c'est que j'ai semé et ils récolteront. Je ne suis pas là pour ramasser les médailles et les honneurs. Ils vont certainement voir beaucoup de monde à l'église par la suite. Donc, j'aime autant être heureux de ce petit nombre que nous sommes, être heureux de nos départs, à droite et gauche pour des églises qui n'ont plus de pasteur ou qui ont encore un pasteur mais qui aiment bien nous recevoir. Et j'aime autant être heureux, sincèrement, je le dis, de servir autre part tout en aimant toujours notre église, notre famille dans la région. Bon, maintenant, l'exemple que nous donnons à nos trois fils, qui sont pour le moment incroyants, enfin qui le disent en tout cas, l'exemple que nous donnons, c'est celui de la persévérance. L'exemple que nous donnons dans la région, c'est celui de la persévérance. Et donc, quand je vous parle là maintenant, il y a plusieurs personnes de notre village et d'autres villages qui écoutent. Et donc, la persévérance est l'amour du Seigneur désintéressé. Et pas la recherche de la gloire, par la recherche du moi-je. Cette persévérance, cette consécration à Dieu, est quelque chose de très exigeant. Et il faut toujours recourir à la prière, au jeûne, à la lecture de la parole de Dieu, à l'amour fraternel. Oui, nous avons besoin des frères et des sœurs aussi. Il n'y a pas qu'à donner, il faut aussi recevoir, évidemment. Alors, durant le repas hier de famille, où tous nos enfants étaient là pour la fête des mères, enfants et beaux-enfants et petits-enfants, donc 18, je ne sais pas, 19 ou 20, je pense que c'est plutôt 18 que nous sommes, eh bien, ou 19, il y a une petite réflexion qui m'a frappé. C'est notre fils aîné qui, ce matin, partait assez tôt dans une autre région pour faire passer des examens à des chasseurs. Dans une ville qui se trouve à 100 km, dans un centre de tir, 250 personnes sollicitent l'administration pour avoir un droit d'être chasseur, d'être tireur. Il y a des gens qui viennent de France, des gens qui viennent de Flandre, un peu partout, de Wallonie, peut-être même du Luxembourg, qui veulent chasser dans les belles forêts de notre Wallonie, où il y a du gibier. Et pour ce faire, il faut être expert, il ne faut pas être un amateur chasseur, c'est interdit. Il est question d'être sérieux avec les armes, sérieux de respecter les réglementations et savoir utiliser des armes sans faire courir de danger à qui que ce soit. Donc notre fils aîné, Benoît, était celui qui jaugeait les personnes, les recevait, les faisait poser des questions et faisait faire les exercices, les maniements. Puis j'ai pensé à quelque chose en l'écoutant. J'ai pensé à quelque chose de très intéressant. L'image du chasseur, les fusils de chasse n'existaient pas au début de l'humanité, mais la flèche et l'arc existaient. Mes chers amis, là commence ma prédication d'aujourd'hui. C'est que le mot péché, c'est le mot qui reflète, qui exprime l'acte d'un chasseur qui rate sa cible. C'est un archer qui prend son arc et ça, ou ses flèches, qui tire et qui rate son but. Il n'est pas capable de tirer sur la cible. Et le mot péché exprime bien ce que fait l'être humain. Il rate l'essentiel de sa vie. Il rate la rencontre avec Dieu. Il rate la vie sainte, la vie formidable que Dieu avait proposée à l'homme. Il la rate. Pourquoi? Eh bien, quand Dieu a donné l'esprit, l'âme et le corps à l'homme et à la femme, ils ont joué avec leur esprit, avec leur âme et leur corps. Ils ont joué. Ils ont fait de cette personnalité qu'ils avaient un instrument de désobéissance. Cet instrument de désobéissance rate sa destination, son but. Autant l'esprit, l'âme et le corps sont dans l'égarement, dans l'échec. Et le mot mort signifie tout simplement que, puisque l'échec est là, la mort, la séparation avec Dieu est totale. Ensuite, la séparation des vertus de Dieu, la séparation, l'éloignement des attributs de Dieu, donc la perversité, les défauts que Satan avait, sont venus dans la vie des hommes. Et puis ensuite, il est venu la mort physique, la maladie, le chagrin et tous les excès que nous connaissons sur cette planète. Vous savez très bien pour le moment qu'aujourd'hui, en Ukraine, les bombardements redoublent. La guerre ne cesse pas, elle redouble. Les dames qui sont chez nous ici le disent, elles sont peinées de ça. Et donc, l'homme redouble toujours dans le mal. Plus on avance, plus on avance. On parle de réchauffement climatique, d'écologie, et on redouble dans le saccage de la planète. On parle de liberté, et on redouble dans l'esclavage. L'esclavage de la drogue, du téléphone, du confort, de l'égoïsme. L'esclavage de l'argent, du sexe, de l'orgueil. Donc, la liberté est loin d'être réelle. Donc, je prends cette image de l'archer qui tire une flèche et qui rate. Il arrive quelqu'un tout près de la personne qui tient son arc et sa flèche et qui lui dit « Écoute, tu dois mettre ta main comme cela, tu dois mettre ton œil à tel endroit, tu dois tendre ton bras de telle manière et tu dois respirer de telle manière. Et je vais t'aider. » Eh bien, celui qui avait l'arc et les flèches refuse. Celui qui est venu les aider, c'est simplement les prophètes, c'est Moïse, c'est tous les saints de l'Ancien Testament, les serviteurs de Dieu de l'Ancien Testament. Ils sont venus pour aider l'humanité, pas seulement les Juifs. Regardez Jonas, il a été à Ninive. Ézéchiel, il a été aussi à Tyr et Sidon, etc. Et donc, vous voyez bien la conversion, l'apôtre Paul, il va en Arabie pendant 3 ans, avant d'aller voir les apôtres. Il disait cela dans Galates. Donc, il y a clairement, une tentative, Dieu a envoyé des assistants, des aidants, pour que les hommes puissent mener une vie juste, qui réussisse. Et tout cet archer a dit, non, je me débrouille très bien. Et il n'a pas écouté les consignes. Je me débrouille très bien. Et tout s'est empiré, il a toujours raté. À force d'échec, l'homme devient mauvais, il est frustré, il est agressif. Alors il s'en prend à Dieu. Alors il s'en prend à ceux qui voulaient l'aider. Et là, nous voyons à quel point l'homme devient retors. C'est que ceux qui lui veulent du bien vont devenir ses ennemis. Et Dieu qui lui veut du bien va devenir son ennemi. Ça, c'est l'histoire de l'humanité dans l'Ancien Testament. Alors, Moïse avait donné les 10 commandements pour dire « Tu ne vas pas faire comme ceci, tu ne vas pas faire comme cela. » Donc, tirer une flèche convenablement, ça demandait une expertise, une formation, mener une vie qui réussisse et qui aille vers Dieu et qui soit en communication avec Dieu pour l'éternité, ça mérite une sanctification, une expertise apportée par la parole des prophètes et de Moïse. Cette expertise, cette sanctification de Dieu a été refusée. Alors, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui dit, on ne s'en sortira jamais. Bon, on laisse tomber les bras. On va boire, on va fumer, on va se dissoudre dans le sexe, on va prendre de la drogue, on va aller dans le luxe, etc. L'indifférence aux autres, on veut plus se soucier des autres, après moi les mouches, etc. Donc il y a une espèce de banalisation complète qui se fait et l'homme ne cherche même plus à atteindre le but. Il ne se bat plus pour trouver le but. Il est complètement nonchalant, languissant, voire dépressif. S'il n'est pas dépressif, il est ronchon et revendicateur. Mais ça ne va pas plus loin. Il donne des coups de poing dans le vide, si vous voulez, des coups de pied dans le vide. C'est sans puissance. Et en fin de compte, il n'y a aucune personnalité consistante derrière tout cela. Il n'y a que de la fragilité, et il n'y a que de l'égarement. C'est, je pense, l'état d'immense foule dans notre société occidentale, américaine, canadienne, et on a ça autre part, dans d'autres pays. Mais toutefois, là où il y a de l'épreuve, là où la parole de Dieu a été apportée, pas un autre expert que Moïse, un autre expert que les prophètes, cette parole de Dieu est écoutée. De quel expert s'agit-il? Eh bien, c'est quelqu'un qui vient auprès de l'archer, qui a un arc et une flèche et qui en a marre, et la nouvelle personne lui apporte une espèce d'arc avec une planche et une manivelle. On tend la corde, et on peut pointer beaucoup mieux, et la flèche va aller plus loin. Vous avez déjà vu ces appareils qui ressemblent à des arcs, mais qui ne sont pas des arcs. C'est beaucoup plus redoutable, la flèche est plus puissante, elle va plus loin. Cette personne qui apporte cet appareil, pour moi, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a amené l'Esprit-Saint. Jésus-Christ a amené une arme redoutable contre l'égarement de l'homme. Jésus-Christ a apporté un atout supplémentaire à l'homme qu'il n'avait pas, parce qu'il a bien démontré son échec. Alors, il est certain que cet instrument, qui est beaucoup plus adapté, plus fort, plus puissant, plus précis dans son tir, cet instrument, c'est la foi en Jésus-Christ, c'est l'assistance du Saint-Esprit. Nous pouvons tourner et orienter notre vie vers Dieu et obtenir une communication avec Dieu, une relation avec Dieu. Nous pouvons retrouver la cible, nous pouvons retrouver le but de notre vie. Donc l'expertise qui est apportée à l'homme est apportée par Jésus-Christ, par ses apôtres et par l'Évangile. Cette expertise nous permet de retrouver la cible, le centre, le cœur de notre vie. La personne de Dieu aimante, infiniment sainte, qui ne désire qu'une chose, être notre Père. Et vous connaissez la parabole de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, c'est un enfant qui est aimé du Père, comme l'autre, qui est plutôt légaliste, très rigoureux dans son comportement, très fidèle aux principes du papa, etc., et de la maman. Mais l'enfant prodigue, à un moment donné, il déroge à tout. Et il va mener une vie de luxure, il va tout dilapider, sa santé, tout le reste. Puis un jour, il va dire « J'ai péché contre Dieu et contre mon père ». Il retourne vers son père, et il retourne vers Dieu. Et on voit que le papa vient vers lui, accourt vers lui, et le prend dans ses bras. Et puis il fait tuer l'agneau, et puis il met une bague et il met une robe, et fait une fête. Le papa n'attendait que le retour du fils égaré. Oui, Jésus veut ramener les enfants égarés vers le Père. Jésus, c'est Dieu qui court vers nous. Jésus, c'est les bras de Dieu. C'est le regard de Dieu. C'est l'amour de Dieu en action. C'est l'amour réel, vivant aujourd'hui pour les hommes. Pour retrouver leur amour premier, retrouver leur vie totale, plénière. Alors, quant à l'autre frère qui est un homme qui se veut intègre et droit, il voit la fête, il voit cette réconciliation de l'enfant du fils tordu, hein, avec son papa, il est fâché et il ne veut pas aller à la fête. Ça, c'est l'homme qui est, bien sûr, qui connaît, qui veut aimer Dieu, qui est vraiment soucieux de plaire à Dieu, mais il n'a pas d'amour pour son frère. Alors que Dieu a de l'amour pour son frère, autant que pour lui aussi, hein, tu es toujours mon fils, le papa lui dit ça, tu es toujours mon fils, tu es toujours dans ma maison, eh bien, lui, ce fils qui se veut intègre, il n'a pas d'amour pour son frère. Pourquoi ? Parce qu'il a jugé, il a condamné. Parce qu'il ne supporte pas que l'amour de Dieu pardonne tout. Alors je vous pose la question, pourquoi est-ce que l'amour de Dieu a tout pardonné à ce fils ? Complètement véreux. Eh bien, simplement, parce que le pardon lui a été donné à la croix, par Jésus. Oui, le papa peut le faire rentrer dans sa maison. Le papa peut le faire rentrer. Pourquoi ? Parce que tous les péchés que ce fils tordu a portés, ces péchés ont été portés par Jésus à la croix. Et maintenant, qu'en est-il du fils rigoureux, légaliste, psychorigide, au cœur étroit? Eh bien, Jésus a aussi porté sa souffrance. Parce que c'est un homme qui souffre, il n'est pas heureux. Il a aussi porté son égarement. Nous voyons que dans les deux cas, ils ont tous les deux raté la cible. Il n'y a pas de juste devant Dieu. Nul n'intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont venus serpents sous la langue. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Nul ne connaît le chemin de la paix. Dans les deux cas, la démonstration est faite que l'homme a besoin que Jésus revienne vers lui. C'est Jésus qui vient vers l'homme, car l'homme est incapable d'aller vers Dieu. L'échec de l'homme vers l'homme est prouvé. Nous avons les guerres, la pollution, etc. Nous avons beaucoup de violence. Mais l'échec de l'homme vers Dieu est prouvé aussi, de plus en plus. Et l'échec de l'homme vers la nature, ben, là aussi. Plus on parle d'écologie, moins on en fait. Plus on parle d'amour, moins on aime. Alors, chers amis, si Dieu est si grand dans son amour pour nous, laissons faire Jésus dans notre vie. Alors, je lis ceci dans le psaume 74, 74, verset 9. Nous ne voyons plus nos signes, il n'y a plus de prophète, et personne parmi nous qui sache jusqu'à quand. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il, l'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom ? Sors, pourquoi retires-tu ta main et ta droite ? Sors-la de ton sein, détruis. Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Tu as fendu la mer par ta puissance, tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Tu as écrasé la tête du crocodile, tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Tu as fait jaillir des sources et des torrents, tu as mis à sec des fleuves qui ne tarissent point. À toi est le jour, à toi est la nuit. Tu as créé la lumière et le soleil. Tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as établi l'été et l'hiver. Souviens-toi que l'ennemi outrage ton nom éternel. Qu'un peuple insensé méprise ton nom. Ne livre pas aux bêtes l'âme de ta tourterelle. Et voici à quel point certains croyants aujourd'hui peuvent parler à Dieu. Dans beaucoup de situations, il y a toujours des hommes et des femmes qui parlent comme ça à Dieu. Ne livre pas aux bêtes. Et quand on regarde dans la traduction de la Septante, en grec c'est démonion. Ne livre pas aux bêtes spirituelles, les démons, l'âme de ta tourterelle. N'oublie pas toujours la vie de tes malheureux. Et égare à l'alliance. Car les lieux sombres du pays sont pleins de repères de brigands. Que l'opprimé ne retourne pas confus, que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom. Lève-toi, ô Dieu, défends ta cause. Souviens-toi des outrages que te fait chaque jour l'insensé. N'oublie pas les clameurs de tes adversaires, le tumulte sans cesse croissant de ceux qui s'élèvent contre toi. Chers amis, ça c'est écrit 1000 ans avant Jésus, le psaume 74. Vous voyez que David a une perception des choses comme s'il était né aujourd'hui, il l'aurait aussi. La supplication, l'intercession sont nécessaires. Aujourd'hui, plus que toujours, prenez du temps dans la prière. Oh, pas pour réciter le chapelet, pas pour répéter sans cesse les mêmes versets par cœur. Non, pour vous adresser avec des mots de votre cœur, de votre âme à Dieu. Il faut supplier le Seigneur, comme l'a fait David. Lisez les psaumes, apprenez au contact de David et au contact de Jésus, au contact des apôtres dans les épîtres. Livrez votre âme, vous êtes une tourterelle, livrez-la à Dieu, qu'il la protège. Soyez une tourterelle dans les mains du Seigneur. Qu'est-ce que c'est qu'une petite tourterelle? Il y a ça 2 ans, une petite tourterelle avait été attrapée ici, derrière chez nous, par un chat. Elle n'avait plus de plume à l'arrière. Donc elle ne pouvait plus voler, puisqu'elle n'avait plus... C'est les ailes, c'est les plumes qui sont à l'arrière qui donnent la direction à l'animal. Et donc, on l'a pris pendant 3 mois dans une chambre, la chambre de Bénédicte, là où maintenant il y a des Ukrainiennes. On laissait la fenêtre ouverte, on lui donnait à manger, etc. Les plumes ont repoussé, tout ça, elle l'a volée. Elle l'a sortie au bord de la fenêtre. Elle allait sur le bord du toit. Elle venait au bord de la fenêtre. Et on l'a eue dans notre main. Elle est venue manger dans notre main. Pendant des mois, elle est venue tout près de nous, à 5 cm de notre regard. Et après, elle a pris l'habitude de voler et s'est trouvée un petit copain. Elle s'est mariée. Elle est dans les arbres de notre verger. Et elle revient sur la balustrade de notre balcon. Elle revient manger dans les graines qu'on lui met tous les jours quand même avec son copain. Le copain mange. Mais ses yeux ne brillent pas de la même façon que ses yeux à elle, la petite tourterelle. La petite tourterelle mange, et puis elle s'écarte, et elle nous regarde dans le salon. Et son œil croise nos yeux. Son œil, ses yeux, nous parlent. De son amour pour nous. Chers amis, qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Que l'amour d'une tourterelle. Eh bien, pour Dieu, il regarde vos yeux. Vous êtes des tourterelles. En italien, tortorella. Vous êtes des tourterelles si vous acceptez d'être soigné et guéri par le Seigneur. Vous découvrirez toujours son amour. Vous avancerez dans la perception de sa bienveillance, de sa compassion. Vous ferez l'expérience de son immense amour pour vous. Et, à ce moment-là, votre regard, Jésus, Dieu, le Père, le Saint-Esprit, voient ce regard. Comme nous voyons le regard de notre petite tourterelle qui revient tout le temps, qui est là dans les arbres et qui a fait fonder une petite famille. Prenons un autre exemple. Il y a 2 mois et demi, un couple nous a amené un petit agneau, mâle, un petit agneau. La maman brebis ne voulait pas le nourrir. Elle avait 2 autres moutons, elle ne voulait pas nourrir ce mouton. Donc les personnes sont venues nous le confier. Et Bénédicte s'est le relevé toutes les 2-3 heures pour donner le biberon, la porter dans ses bras, etc. Lui a parlé. Maintenant, cet agneau, bien sûr, il se met dans ses bras, il se met dans son cou, comme un enfant dans les bras de sa maman, il met son nez contre son oreille ou sa joue, et puis il la regarde avec des yeux d'amour. Et cet agneau est maintenant dans la prairie, mais de temps en temps il rentre dans le salon, il remonte dans la chambre, il rentre dans la maison, il vient à l'école, tout près des enfants ukrainiens, et... il est rempli d'amour pour Bénédicte. Son regard n'est pas celui d'un agneau qui n'a pas eu d'amour. Un agneau consommateur. Ce n'est pas un abruti. Ce n'est pas un indifférent. Un banalisant. Un indifférent. Ça va même mieux. L'école de cet amour lui permet d'en donner lui-même. Maintenant, nous avons ici... derrière, une bâche, des tapis. Nous avons mis cela dans la cour parce qu'il fait bon. Et les petites filles ukrainiennes disent 11 ans, 12 ans, 14 ans, 15 ans, il y en a 5, 6 comme ça, et un gamin aussi, se couche par terre et l'agneau fait la même chose. Il met sa tête dans le creux de l'épaule des petites filles. Il les regarde. Quelle consolation cet agneau donne à ces petites filles qui voudraient bien revoir leur papa, leur grand-père, leurs frères qui ont dû rester là-bas. Vous verriez le bonheur que cet agneau s'est donné. Alors je voudrais vous dire, cette expérience est formidable. Cet agneau qui était destiné à mourir, à être abandonné, qui a été aimé par Bénédicte, qui a été aimé sincèrement, a reconnu l'amour. Et sait ce que c'est que l'amour. Et reste fidèle à l'amour de Bénédicte. Elle se promène dans toute la prairie, elle va le long de la route, il la suit. Comme un petit chat, un petit toutou. Et, que se fait-il? Lorsque Bénédicte est occupée, ou qu'elle le place auprès des petites filles et des petits garçons ukrainiens qui sont chez nous, il se met à côté d'eux et il fait comme l'apôtre Jean sur l'épaule de Jésus. Tout à fait la même chose. Jésus a donné de l'amour à Jean, Jean en a donné à d'autres. Eh bien, la même chose. L'agneau a reçu de l'amour de Bénédicte et l'agneau donne de l'amour aux enfants ukrainiens. Est-ce que ce ne sera pas ça qui est promis dans le royaume de Dieu sur terre, quand il n'y aura plus ni douleur, ni chagrin, ni deuil, ni mort, lorsque Jésus vivant règnera? Oui, j'ai vu à travers Bénédicte et cet agneau, les prémices de la gloire de Dieu qui touchaient, réconfortaient, relevaient l'âme de ces petits-enfants, de ces adolescents ukrainiens, si tristes, si désolés, qui sont sans cesse sur un smartphone pour savoir si leur papa n'a pas ramassé ou leur frère une bombe sur la tronche, sur la figure. Nous avons eu la fête des mères. Nos enfants sont venus. Et moi, je me suis dit, c'est pas possible. Nous n'allons pas vivre en égoïsme. J'ai acheté des tartes, plusieurs tartes en boulangerie. Je les ai cachées. Puis j'ai déposé ça à une femme seule, qui vit seule avec ses deux enfants. J'ai déposé des petits gâteaux d'amour. Puisque je suis toujours en connexion avec le Seigneur, que je reçois de son amour, que je l'aime, que je suis toujours en communication avec lui, j'ai voulu aussi que cette dame et ses enfants aient de l'amour. Les Ukrainiennes qui sont en dessous, oui, il y en a 4 et 2 enfants. Dans l'appartement au-dessus de l'école, ils sont 5. Plus un bébé. La même chose. Une tarte, des gâteaux. Que se fait-il sans que nous l'ayons demandé, sans que nous l'ayons désiré? Aujourd'hui, toutes ces personnes nous ont fait des tartes à l'ukrainienne. Des chefs-d'œuvre. Des chefs-d'œuvre de pâtisserie qu'on n'en trouve pas d'aussi belles dans les boulangeries. L'amour engendre l'amour. L'amour de Dieu inonde le cœur de ceux qui se laissent faire. L'amour de Dieu inondera un jour le monde entier. Vous voyez à quel point la Syrie, l'Irak ont été sanglants et le sont encore. Et pourtant, si vous lisez chapitre 18 et 19 d'Ésaïe, les derniers versets, ils adoreront Dieu l'Éternel à Sion, à Jérusalem. Si vous lisez le psaume 87, vous le voyez aussi. Et dans le psaume 87, vous voyez qu'il y a aussi les Philistins, les Cananéens. Donc, ceux qui aujourd'hui sont ennemis d'Israël. Chers amis, Vous voyez l'Égypte dans le psaume 87. Ils seront tous adorateurs de Dieu de l'Éternel. Par obligation? Non. Par transformation? Mieux. Par pure grâce. Une transformation sera faite dans le cœur des ennemis de Jésus-Christ. Même les plus durs en Israël vont fléchir le genou. Même les militaires et les rois vont être brisés dans leur orgueil. Et le jour n'est pas loin. Seul l'amour gagnera. Mort, où est ta victoire, a dit Osée, au chapitre 13. Paul le reprend cela. Mort, où est ta victoire? La mort a été engloutie dans ta victoire. Mes chers amis, regardez de l'avant. Ne vous laissez jamais atteindre au fond de votre âme. Ne faites pas ce cadeau au diable. Ne vous laissez pas démolir. Je lis dans Job ceci, Job qui souffrait. Job 33, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Et oui, évidemment. Ce sont tous les mêmes. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements. Il met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le garantir de l'orgueil. Ah, voilà la vraie mort. Voilà l'art de rater les flèches, la cible. C'est rater la sainteté. C'est tomber dans l'orgueil. Et la mort, séparation éternelle d'avec Dieu. Afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive, donc de la damnation éternelle. Par la douleur, aussi l'homme est repris sur sa couche, quand une lutte continue vient agiter ses os. Ma belle-mère disait toujours, bien longtemps déjà ça, à sa fille, à Marie-Hélène, mon épouse, « J'ai mal dans les os, mes os me font mal. » Et Marie-Hélène, qui avait 35-40 ans, disait, « Mais maman, on n'a jamais mal dans les os, c'est pas possible. » Et la maman avait beau faire pour essayer de se faire comprendre, ça ne marchait pas. Mais maintenant, Marie-Hélène a mal dans les os, et moi aussi, et on sait ce que c'est. Et c'est pas marrant. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Et oui, c'est vrai qu'à certains moments, je dis à ma femme, j'ai pas envie de manger. Viens manger, tu veux manger quoi? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. On est vraiment cassé des fois. Cassé. Je suppose que parmi ceux qui m'écoutent maintenant, il y en a qui vivent cela. On attend que ça passe. On se retourne intérieurement vers le Seigneur et puis on se met à manger pour être en compagnie des autres, pour faire honneur à celui ou celle qui a mis la table, qui a préparé quelque chose. Mais en attendant, des fois, c'est pas marrant. Il prend des goûts le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Même les aliments les plus exquis. Tu veux du gâteau? Oui, oui, je le mange, hein, oui, je le mange, et puis, tu en veux? Oh non, 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 je veux pas, non, non, c'est pas possible. Ou je vais chez une sœur de l'église, tu veux un chocolat? Tu veux une praline? Non, 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 je ne pourrais pas, non, 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 c'est impossible. Pourquoi? Mes chers amis, c'est ça, c'est ça. Être cassé intérieurement. Il prend dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. C'est pas encore le cas, mais ça viendra. Son âme s'approche de la fosse, et sa vie des messagers de la mort, donc, du diable, des démons. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, donc un envoyé, un délégué de Dieu, qui sait à s'adresser à Dieu pour lui, un d'entre les mille, donc pensant à Jésus-Christ, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, pensant à Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, moi je pense que c'est Christ, hein, au messager, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon pour lui. C'est le messager lui-même qui est la rançon. Et sa chair, alors, a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Et propice, c'est-à-dire sans colère, en paix complètement, favorable entièrement. Lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit « J'ai péché, j'ai violé la sainteté, la justice de Dieu. Je n'ai pas été puni comme je le méritais. » Et oui, c'est vrai. Hein. Ça, on peut le dire quand on... Vraiment. Hein. On le sait, hein, tout est grâce, mais on n'est pas brillant des fois. Hein. Heureusement que la grâce dépasse la hauteur de nos péchés. Hein. Je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. En Christ, hein, la lumière du monde. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse. Il n'y a pas l'enfer. Il n'y a pas la solitude éternelle dans les tourments, les affres du feu, des flammes de l'enfer. Le pire, c'est que ce sont un feu et des flammes qui ne brûlent pas, qui ne font que de tourmenter, créer le désespoir. Moi, j'ai vu ça sur mon lit quand j'avais 4 ans, j'avais un FFT typhoïde. Et j'avais bien compris que c'était l'enfer. C'était pas la maladie. Et j'avais dit à Dieu, si quelqu'un avait la foi et venait tout près de moi, qu'il priait pour moi, je guérirais. Personne n'est venu. Et moi, dans le petit cœur, 2 heures après, 2 jours après, je ne sais pas, 1 semaine après, j'ai dit, si je guéris, je cherche Dieu toute ma vie, même si tout le monde est contre. Et le lendemain, je courais comme un lapin avec les autres copains, sauf ceux qui étaient morts, parce que la fièvre typhoïde avait éclairci les rangs. J'ai vu l'enfer, et ça je vous le certifie, c'est dans Luc 16, quand vous voyez le riche, qui est tourmenté et qui demande à Abraham d'envoyer des frères. Il est existant, mais dans les tourments. Vous avez déjà eu des tourments dans votre vie? 6 mois, 1 an, 2 jours, 5 ans, 20 ans. Vous avez envie que ce soit éternel? Pas possible, n'est-ce pas? C'est insupportable. C'est insupportable. Eh bien, l'enfer, c'est ça. C'est insupportable, pourtant, on y est condamné. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. Donc, on n'est pas condamné si on accepte la rançon. Verset 24. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon pour lui. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier jour. Il revient au jour de sa jeunesse. Résurrection. Verset 29. Voilà tout ce que Dieu fait 2 fois, 3 fois avec l'homme pour ramener son âme de la fosse pour l'éclairer de la lumière des vivants. Résurrection. N'est-ce pas beau? Ce texte est écrit 21 siècles avant Jésus, il y a 42 siècles. Vous savez que ce texte, avec le messager qui s'approche dans la fosse des morts, se trouve dans le livre des morts des moines tibétains. Oui, ce texte a 21 siècles avant Jésus. Or, Bouddha et les Tibétains, c'est 6-7 siècles avant Jésus. Ils ont été piqués, ça, là-dedans. Alors, chers amis, il peut arriver, et il y a des gens comme ça, qui n'ont pas vraiment compris ce qui se passe dans leur cœur. Ils jouent sur l'amour de Dieu et en même temps, ils sont encore complètement, sans savoir, sans mauvais. Et je voudrais vous prendre un texte pour vous le montrer. C'est une photographie d'une âme qu'il ne faut pas être. Psaume 109. C'est un psaume, je ne souhaite pas qu'on prenne pour en faire une malédiction, n'est-ce pas? Peut-être qu'il y en a qui l'ont fait, hein. Il ne faut pas le prendre. Psaume 109. Dieu de ma louange, ne te tais point, car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse, ils me parlent avec une langue mensongère. Donc, il se prend déjà pour une victime. C'est possible. Ce sera réellement une victime. Mais on ne se présente pas à Dieu en accablant les autres. Parfois, on en fait la même chose aux autres. Parfois, on est pitoyable, n'est-ce pas? Donc, quand on prie, on n'est pas là pour parler des autres. On est là pour être devant Dieu, entre Dieu et moi, c'est ça qu'il faut régler. Donc, il se trompe déjà. Et je vous prie de ne pas tomber là-dedans. Ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux. Ils me font la guerre sans cause. Ils font la guerre sans cause, c'est un verset qui a été repris concernant Jésus. Hein. Ils m'ont haï sans cause, ils vous haïront sans cause. Mais si c'est le cas, est-ce qu'il faut les maudire pour ça? Non, dans Matthieu chapitre 5 à 7, interdit de maudire, il faut bénir. Et dans Romains 12, il faut surmonter le mal par le bien, afin que Dieu mette des charbons ardents sur leur tête. Charbon ardent, comme dans Isaïe chapitre 6, pour purifier le pécheur, le méchant, pas pour le détruire. Comme Dieu a purifié par un charbon ardent les lèvres et le cœur, l'âme de Isaïe, dans le chapitre 6, au début du chapitre 6. Ne considérons pas ce verset de Romains 12 comme une malédiction sur les pécheurs, n'est-ce pas? Alors, on n'a rien compris à l'évangile si on fait ça. Ils m'environnent de discours haineux, ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires, mais moi je recours à la prière. Très bien. Je recours à la prière, mais quelle prière, les amis? Quelle est la disposition de mon cœur quand je vais prier? Je vais m'adresser à mon Dieu. On va le voir, le cœur n'est pas clair. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Donc, je suis une victime. Ben, on ne m'a pas compris. On ne me comprendra jamais. On m'en veut toujours. Imaginez, hein, quand ça commence, ça ne finit rarement pas tout de suite. Hein. Ça peut durer parfois des années, voire une vie. Hein. Alors, voilà ce que David dit. Place-le sous l'autorité d'un méchant, qu'un accusateur se tienne à sa droite, quand on le jugera qu'il soit déclaré coupable, que sa prière passe pour un péché. Vous avez vu David, à certains jours de sa vie? C'était pas rose, n'est-ce pas? Mais évitons cela. Jésus a pardonné à tout le monde, même sur la croix. Et il nous interdit de maudire. Il faut bénir, aimer. Que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge, que ses enfants deviennent orphelins, sa femme veuve, que ses enfants soient vagabonds, qu'ils mendient, qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruine. Ça, c'est vraiment une fatia, ça. C'est vraiment la malédiction en plein, pour 2-3 générations. Chers amis, ne tombez pas là-dedans. La Bible est très intéressante et peut nous montrer à quel point on va loin de Dieu, tout en croyant qu'on est sincèrement avec Dieu. Que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui, que les étrangers pillent le fruit de son travail, que nul ne conserve pour lui de l'affection, que personne n'ait pitié de ses orphelins, que ses descendants soient exterminés, que leur nom s'éteigne dans la génération suivante, que l'iniquité de ses pères reste en souvenir devant l'Éternel, que le péché de sa mère ne soit point effacé. S'il vous plaît, ce psaume ne doit jamais être utilisé pour une malédiction. Il est simplement là pour nous mettre en garde sur une prière qui n'est pas conforme à l'Esprit Saint. C'est une prière complètement de pécheur. Pécheur égaré, pécheur contredisant, rebelle, d'un pécheur outragé, blessé, humilié, et qui ne va pas dans la paix vers Dieu. Il y va avec un cœur rempli de hargne, rempli d'amertume. Alors, ce que je voudrais vous dire, chers amis, c'est que l'image de l'archer, où nous tirons la flèche, nous apprenons avec Jésus à tirer juste, à connaître Dieu. Mais je mets en garde tout de même. Par expérience, je vois que des chrétiens, parfois, ont l'amour de la parole de Dieu, aiment l'Église, et puis tout d'un coup, oui, j'apprends, j'apprends qu'ils ont incendié telle personne qui ne leur plaisait pas. Ils ont humilié telle autre personne. Ils n'ont pas voulu voir telle autre. Et pour finir, ils s'asseyent quand même à l'église et ils prennent la Sainte Cène. Ou à l'église catholique, l'Eucharistie. Et en plus, ils veulent un poste, une charge dans l'église. Mes chers amis, tout cela existe. C'est la réalité de l'orgueil humain. C'est la réalité de la méprise humaine. Chers amis, aujourd'hui, ce que je vous invite, c'est que si vous voulez vraiment appartenir à Jésus, vous devez bien entendre ce qu'il a dit. Je suis doux et humble de cœur. Venez à moi, déposez votre fardeau. Un cœur pourri, voilà le fardeau. Déposez son cœur à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à sa grâce, à son amour pour vous, à son amour pour moi. Dieu a tellement d'amour pour nous. Il peut nous remplir de son amour et de sa grâce. Rendons gloire à Dieu pour la gloire de sa grâce. Éphésiens. Il faut bien terminer. Il faut terminer avec un verset qui puisse toucher, qui puisse vous faire comprendre ce que Dieu a toujours voulu. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. C'est quoi la grâce? Verset 7, en lui nous avons la rédemption par son sang, nous avons le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Dieu est tellement bon. Nous n'avons pas de choix. Nous sommes appelés à lui devenir semblables. S'il n'y avait pas eu le péché d'Adam et Ève, nous serions semblables à Christ. Aujourd'hui, il faut retourner vers Dieu, par Christ, pour redevenir semblable à ce que Dieu voulait pour nous de toute éternité. Dieu est grand, il veut que nous soyons semblables à Jésus et que nous soyons à son image. Nous n'avons pas à être chrétiens pour nous-mêmes, en gardant des mauvaises choses dans notre cœur. On ne peut pas vivre dans cet esprit du psaume 109. En maudissant certains et en se croyant juste. Jamais la parole de Dieu ne peut être utilisée pour nourrir l'orgueil, pour nourrir la méprise. La parole de Dieu est faite, elle est donnée pour que nous comprenions la gloire de la grâce de Dieu, la grâce, son infini amour. Jonas a bénéficié de la grâce alors qu'il désobéissait. Il était croyant, lisez Jonas. Croyant désobéissant, il haïssait les Ninivites. Dieu avait tellement d'amour pour les Ninivites et pour Jonas. Regardez la gloire de Dieu dans ce récit de Jonas. Regardez la gloire de Jésus dans la vie de Jésus à la croix. Vous verrez la gloire de sa grâce. Vous n'avez peut-être pas encore perçu, alors allez sur YouTube. Regardez pendant 3h15 le film Jésus de Nazareth selon l'évangile de Jean. Regardez-le 2-3 fois si vous voulez. Méditez-le. Il faut absolument comprendre le vrai évangile. Et ne pas le vivre comme nous le pensons. Il faut aller au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous imaginons. Il faut que l'Esprit Saint nous conduise dans les pensées de Dieu. Pour être dans son vrai évangile. Alléluia.